Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry, Halou Dmandi.
Chienne Berry, Sigi Kafoba.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Nous nous intéressons aujourd'hui à la grève des gros porteurs. Le syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali a entamé ce lundi 18 décembre une grève illimitée. Il réclame la mise en œuvre des accords du 27 mai 2017. Nos invités sur ce plateau, Ibrahim Akebe de Fassokanou, Khalid Dombélé, économiste au CRAPES. Je suis Fatmata Togola. Le Grand Dialogue. Pour commencer, je vous propose d'abord d'écouter ces propos de Moussa Bagayogo du Sénacor.
On avait dit de situer la responsabilité du chauffeur par rapport aux produits détériorés. Nous avons demandé la convention collective qui regroupe tout un ensemble d'arsenal. En fait, quand je dis ensemble d'arsenal, parce que c'est derrière ça, il y a l'INPS, il y a l'AMO, il y a le contrat de travail qui fait partie de nos différents points. Et il y a le gris salarial aussi. Maintenant, nous avons dit, concernant le gris salarial, où nous en sommes? Il y avait une commission qui travaillait sur ce problème de gris salarial, auquel pendant 8 mois, depuis le 17 mai, il n'y a pas eu d'avancée. Parce que les chauffeurs souffrent. Quand vous voyez des chauffeurs, des gros porteurs, qui conduisent à 50 000 francs, à 30 000 francs, et même pour avoir 50 000 francs ou 30 000 francs, c'est des problèmes. Comment c'est des problèmes? Quand ils viennent du voyage, et même s'il va, il décharge, on va dire non, voilà un sac qui est tourné, manque 2 kilos, voilà un bidon d'huile qui est percé, il manque 5 litres, et c'est comme ça, il essaie maintenant de plonger un peu son petit salaire, même quand il donne.
Alors, vous venez d'écouter cet intervention de M. Bagayogo du Sénacor. Monsieur Kébé, nous allons commencer par vous. Quelle est votre impression par rapport à ces revendications-là?
La première des choses, c'est des revendications qui sont vraiment justes, c'est des revendications nobles. Parce que nous sommes dans la logique de ceux-là qui disent qu'à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses capacités. En tant que travailleur, on a droit à un salaire vraiment décent, on a droit à la santé, on a droit à la protection. Et en tant que travailleur, on a aussi le devoir de bien faire le travail comme il le faut. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire comme introduction.
D'accord. Et vous, M. Damilé?
Alors, lorsqu'on écoute le monsieur, on a l'impression que nous vivons dans un pays où les situations sociales commencent, si nous continuons d'ailleurs, à s'aggraver. On se rappelle, durant cette année 2017, dans plusieurs secteurs, à commencer par le commerce, le transport, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, pas mal de fonctionnaires, de travailleurs sont partis en grève pour cause des actions purement et simplement sociétales. Aujourd'hui, le monsieur, il revendique un certain nombre de choses en rapport avec la protection, un certain nombre de choses en rapport avec une meilleure condition de travail, des choses qui sont plus que légitimes pour tout être humain voulant s'épanouir dans un milieu professionnel donné. Donc moi, j'estime que non seulement ils sont dans leur droit le plus fondamental de revendiquer ça, mais aussi ça en dit long sur l'état social même de la République en question. Aujourd'hui, on est tous interpellés à se poser la question suivante. Est-ce que la République est en train de partir dans une indifférence d'insensibilité, tout simplement? Face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des personnes qui souffrent dans le travail. Qu'est-ce que l'État fait pour ça? Donc, c'est une impression d'indifférence, surtout que j'éprouve face à cette situation-là.
D'accord, mais il y a eu une grève au mois de mai, c'était par rapport aux mêmes revendications. Voilà, et il n'y a pas eu d'aboutissement si on juge bien cette situation-là où on en est actuellement. Pensez-vous que cette fois-ci, il y aura changement de situation ou pas?
C'est ce qui fait beaucoup plus mal, en fait, parce que au fur et à mesure que les grèves se succèdent, on a l'impression que ce sont les mêmes revendications qui reviennent. Et ces mêmes revendications qui reviennent, on a l'impression qu'il n'y a aucune mesure sérieuse qui est prise face à cette situation. Alors, il y a lieu de se poser, est-ce que c'est aux sous que ces gens-là sont en train de s'adresser, ou bien c'est à des personnes dignes des oreilles qui les écoutent? Parce qu'on se demande quand même, face à ces revendications, à travers la pesanteur de leur situation, à travers la situation dans laquelle ils vivent, on a l'impression que rien ne se passe. Donc, est-ce que c'est un effet de mode qui se passe? Parce qu'aujourd'hui, on voit que dès que ça ne va pas dans un secteur, on part à la grève. Dès que ça ne va pas dans un autre secteur, on part dans la grève. Donc il y a lieu de se poser la question, est-ce que réellement ça est en train de devenir ce qu'on appelle une imitation? Parce que la grève, c'est la conséquence d'un certain nombre d'échecs au niveau de la négociation. Parce que si, avant de partir en grève, on part à la négociation. Si on ne sommes pas d'accord, donc la grève, c'est l'étape finale. Autrement dit, est-ce qu'au Mali aujourd'hui, pour se satisfaire, il faut aller dans l'extrême? C'est la question qu'on se pose. Donc moi, je me demande si toutefois réellement, à travers les mêmes revendications qui reviennent, est-ce que réellement on les écoute? Est-ce qu'on est en train de les écouter? Parce qu'il y a entendre aussi et écouter qui sont différents. Mmh. On peut entendre sans pour autant écouter.
Ok. Alors, M. Kébé, qu'avez-vous à dire par rapport à cela?
La grève est un droit. C'est un droit. Les syndicats ont bel et bien raison. Mais en prenant le fond de cette grève-là, on se rend compte, comme il a si bien dit, il s'agit de la question de la grille salariale. Mais selon nos investigations aussi, on s'est rendu compte que leur salaire de base, ça évolue, hein, c'est de 50 000, 75 000 jusqu'à 100 000. Et aujourd'hui, ils revendiquent jusqu'à 200 000 à 150 000 à peu près. Alors qu'en réalité, l'État en tant que tel, ces gros porteurs n'ont rien à voir directement avec l'État en tant que tel, parce que c'est des privés qui les engagent dans ce travail-là. Et aussi, c'est leur employeur aussi se plaint beaucoup d'eux. Vous voyez un peu, il y a deux poids, deux mesures à ce niveau. Sinon, en toute sincérité, c'est que les revendications en tant que telles, en ce qui concerne les questions de protection, les questions de mieux vivre, sont vraiment logiques. Mais c'est pourquoi j'ai parlé aussi, en tant que travailleur aussi, on a des devoirs. On a des devoirs vis-à-vis de celui qui nous emploie aussi, et nous devons travailler correctement. Donc il y a cet aspect aussi qui est sur la table avec les employeurs.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est l'une des raisons qui font qu'il y a blocage actuellement par rapport à la mise en œuvre de leur accord demandé?
Bon, la question de mise en œuvre relève justement d'une question de volonté. Si vous êtes mis d'accord autour d'un papier, il va de soi que vous respectez vos paroles données. Ça, c'est aussi clair. Mais si vous voyez qu'il y a blocage, c'est qu'en réalité, au fond, il y a un problème qui ne dit pas son nom.
Mais quand, ok, vous voulez réagir par rapport à ça?
Oui, en fait, moi, je crois que en partie, ce qu'il dit n'est pas faux. Mais il a dit quelque chose qui a attiré mon attention. C'est que lorsqu'il dit que ces gens n'ont rien à voir directement avec l'État, moi, je crois que c'est pas totalement le cas. Pourquoi? Parce que dans un État, il y a ce qu'on appelle le secteur privé. L'État est censé réunir les conditions pour l'épanouissement du secteur privé. Donc, partir même de son constat selon lequel ces gens travaillent pour ce qu'on appelle des entreprises privées, donc quelque part ils n'ont rien à voir avec l'État. Moi, je m'inscris totalement en faux de cet argumentaire. Pourquoi? Primo, on sait que l'État prélève ce qu'on appelle des recettes. Ces recettes-là sont prélevées sur la base des activités des entreprises qui excellent non seulement dans le public mais aussi dans le privé. Et quelque part, cette politique fiscale-là a un lien immédiat, bien évidemment, avec ce qu'on appelle les travailleurs aussi de ces entreprises privées, parce qu'ils sont aussi taxés sur la base de ce qu'on leur donne. Au Mali, on sait qu'avec la législation, ça c'est quelque chose qui est évident, à partir du mois où ton salaire dépasse ce qu'on appelle 50 000, si tu es soumis à l'imposition. Autrement dit, tu es obligé de verser quelque chose à l'État. Donc, on ne peut pas, de jour au lendemain, dire que voilà, voyez, ils travaillent avec le privé, ils n'ont pas grand chose à avoir avec. C'est une chose de dénoncer leur comportement dans le travail, ça n'est une autre aussi de faire le lien entre ce comportement et le fait que l'État est sourd à leurs revendications. Ça, c'est un. De deux, on ne peut pas analyser cette situation de façon individualiste. C'est-à-dire, pour comprendre le fond de la situation des grèves au Mali, il faut faire ce qu'on appelle une analyse systémique. En fait, tu ne peux pas prendre seulement le secteur. Aujourd'hui, je sais qu'il est question de la grève des gros porteurs. Mais aujourd'hui, lorsque nous sommes face à cette situation, il est le devoir de tout citoyen sérieux de se poser la question. Ah, mais aujourd'hui, on voit que depuis cette année a commencé, il y a eu pas mal de grèves dans plusieurs secteurs au Mali. Donc, quelque part, on ne peut s'empêcher de faire un lien entre les différents secteurs. D'autant plus que l'économie est comme un circuit. D'accord. On sait que ça commence avec le primaire, le secondaire et le tertiaire. Mais les trois secteurs sont ce qu'on appelle liés de façon inextricable. Dès que ça ne va pas dans un secteur, automatiquement, on sent que l'autre secteur aussi va sentir le coup. Parce que le primaire, c'est les matières primaires. Le secondaire transforme ces matières primaires. Et le tertiaire fait avec le transport. En fait, effectue les services avec les matières transformées. Donc, si le transport étant un élément clé du secteur tertiaire et que ce transport se découvre ce qu'on appelle impacté, automatiquement, vous en conviendrez avec moi que les autres secteurs qui reviennent, qui sont inextricablement liés au secteur tertiaire, automatiquement au transfert, vont sentir le coup. Donc, on ne peut pas faire une analyse, si on procédait avec une méthodologie individualiste face à cette grève-là. Moi, je crois que c'est une grève qui en dit long sur la nature même des liens entre, d'une part, les travailleurs syndicaux et, d'autre part, l'exécutif en place. Pourquoi ça s'envenime comme ça? Moi, je crois que c'est la problématique qui vaut les millions de francs CFA.
Oui, M. Kébé.
Oui, mais quand je dis que ça n'a rien à l'État n'a rien à voir, ça ne veut pas dire que l'État n'a aucune responsabilité en tant que tel. On est dans un État qui s'est déstructuré. Évidemment, le secteur privé, même quand je parlais de la question de protection, tu ne peux pas parler de cette question de protection sans aller dans la question d'INPS. Lamo, il en a parlé tout seul dans son interview. Et j'ai bien et bien parlé de ça. Mais je parle en tant que... c'est-à-dire, ce n'est pas l'État qui les a engagés dans ce travail-là. Je voudrais dire ça parce que quand tu revendiques un salaire de base de tel franc à tel franc, ça c'est le SMIC est là, c'est connu de tous. Donc au-delà de ça, il gère ça directement avec les employeurs. C'est de ça que je voulais dire. Mais au-delà de ça, l'État peut bel et bien faire quelque chose. En toute sincérité, les questions privées sont aussi gérées par l'État d'une manière. Donc c'était juste pour la mise au point et assez d'ivoire.
C'est pourquoi j'ai dit en partie que son analyse n'était pas à côté de la plaque, en partie. Même lorsque vous dites que l'État n'a pas quelque chose à avoir directement avec eux, c'est là le problème. L'État a quelque chose à avoir directement avec ces gars. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui réglemente les conditions du travail. C'est pas l'entreprise privée. L'entreprise privée est sous tutelle de l'État. Donc tout ce qui se passe entre l'entreprise privée et son employé, quelque part, engage la responsabilité de l'État en place. Donc si l'État n'est pas sérieux, automatiquement, les entreprises...
Par exemple, le SMIC, l'augmentation de la grille salariale, finir. Le SMIC, c'est au moins 40 000 francs CFA. Mais la base aujourd'hui, là, selon nos investigations, c'est à partir de 50 000. La base de salaire, 50 000, 75 000, même 100 000 francs CFA. Donc, ils sont même au-delà de cette réglementation-là, dont le truc minimum, justement, c'est 40 000 euros à peu près.
Oui, c'est l'erreur que maintenant... vous faites. En fait, lorsque vous prenez le SMIC, les 50 000, est-ce que vous prenez aussi leur productivité dans le travail? Est-ce que vous vous dites, est-ce que le travail qu'ils font est rémunéré à la hauteur de 50 000? C'est la problématique qui se pose.
C'est pourquoi j'ai dit à l'introduction que nous sommes dans la logique de ceux-là qui pensent à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses capacités.
Justement.
Je suis dans cette philosophie.
Voilà.
Je l'ai dit depuis l'introduction. Il faut qu'on soit très clair. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Parce que nous sommes en réalité dans un État capitaliste. Et pour moi, il faut casser ce système-là et puis instaurer un autre système qui prend en compte les aspirations profondes de notre peuple.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu de dire qu'ils n'ont rien à voir directement avec l'État.
Non, vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Vous êtes dans un autre monde en ce qui concerne. Moi, je te parle en tant que politique, par exemple, en tant que voir le système politique en tant que tel.
Justement.
Moi, je suis dans ça. Moi, je ne suis
justement,
pas
le système politique
dans,
et le
dans,
système
dans le monde que vous défendez.
Le système politique le système économique, je suis désolé, cher Kéba, ce sont des choses qui sont inextricablement liées. Tu ne peux pas analyser.
C'est pas exact. C'est pas exact.
Mais bien sûr.
La politique.
Je vous en prie. Oui, terminé.
Voilà. Je disais que, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il existe une cellule conseiller technique des questions économiques au palais présidentiel. Jusqu'aux preuves de contraire, aujourd'hui, il y a cette cellule-là qui existe. Raison pour laquelle on dit que les politiques, dans leurs différents choix de politique économique, et là, il est question de quelque chose qui est en rapport avec ce qu'on appelle un axe économique qui est très important, la répartition des ressources. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Du coup, quand il s'agit de cela, on ne peut pas exclure, si vous voulez, l'analyse économique à partir du moment où c'est sur fond de cette analyse-là qu'on doit déterminer comment répartir le gâteau qu'on a gagné dans l'économie, autrement dit le revenu, l'ensemble de revenus qu'on a gagné dans
l'économie. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la politique en tant que telle, elle est inséparable de la vie. Il n'y a pas un seul domaine dans la vie qui n'est pas
tranché par la politique. Il n'y en a pas.
Où est la problématique alors?
Non, il n'y en a pas. La politique,
où se trouve le discours?
La thèse qui consiste à dire que l'économie est différente de la politique.
Je n'ai pas dit ça. C'est vous qui dites ça.
Non, est-ce que c'est vous, c'est dans mon développement.
Vous dites monsieur, je suis dans un autre monde.
Monsieur Dambélé, je vous en prie, oui.
Voilà, donc la politique en tant que telle, elle est inséparable de la vie. Oui. Dans tous les domaines de la vie nationale, oui. C'est bien sûr une ligne politique clairement définie qui régit l'ensemble de ces domaines-là.
Et au fond,
mais selon vous, où se situe la problématique?
La problématique aujourd'hui, c'est une question de volonté politique. Et cette question de volonté politique-là relève évidemment d'une ligne qui est clairement définie par celui qui gère aujourd'hui le pays.
Justement,
c'est aussi simple que ça. Parce que la question des besoins dont on parle aujourd'hui, la question de la protection des travailleurs dont on parle aujourd'hui, la question de la sécurité des travailleurs dont on parle aujourd'hui, c'est évidemment, comme il a dit, tout est tranché, tout est clairement défini par une ligne. Donc il va de soi que cette volonté politique puisse revisiter conformément à des principes qui peut prendre en compte les aspirations profondes de notre peuple.
Je crois qu'il y a plus de contradictions à ce niveau. S'il est d'accord que effectivement, ça, ces salariés ont quelque chose à voir avec le politique, moi je crois qu'il y a plus de contradictions à ce niveau. C'était mon seul problème.
D'accord.
En fait, la question elle est plus politique. Économiquement aujourd'hui, économiquement, justement, lorsque vous dites que ce n'est pas exact que vous mettez à développer le thèse contraire,
c'est vous qui ne comprenez pas au fait. Je vous ai dit et je vous ai expliqué au fait. J'ai dit, si vous voyez que je dis que l'État n'a rien à voir directement, et j'ai précisé de quoi il s'agissait en réalité. Et ça, je l'ai expliqué. Donc, on ne veut pas revenir là-dessus encore.
Non, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est que vous ne pouvez pas dire que l'État n'a rien à voir avec ça, avec des arguments à minima. Indirectement avec ça, avec des arguments à minima. On veut dire non, c'est parce qu'il travaille avec le privé, c'est pourquoi, voilà, on peut dire que l'État directement n'est pas concerné par cette situation. Ce que vous oubliez, c'est que le privé est déterminé, l'activité du privé est encadrée et réglementée par ce qu'on appelle l'État. Ce qui fait que, voilà, ce qui fait que automatiquement, en fait, directement, explicitement, il y a effectivement un lien direct entre ces gars et l'État.
Je ne sais pas si vous voyez un peu. Important, on peut rentrer dans
voilà. Sinon, je vous ai compris, hein, sauf que je ne suis pas. Je respecte votre point de vue d'ailleurs.
Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Alors là, je vous propose d'écouter un autre son de Monsieur Moussa Bagayogo du Sinagor qui nous dit que la situation n'a pas évolué depuis 2015. Alors, écoutons-le.
Vous savez, depuis en 2015, nous avons dit les revendications à faire, auxquelles toutes les revendications ont été, tous nos 10 revendications, les différentes revendications que nous avons eues à poser. La grève, on l'a enlevée suite à des procès verbaux de conciliation avec les différentes structures. Et à partir de 2016, nous avons vu qu'il y a pratiquement la volonté n'est pas, donc nous avons repris encore la grève. Et on nous a donné encore. Et nous avons laissé tomber. Et en 2017, rien qu'en mai, la grève a fait 4 jours. Et durant ces 4 jours, il y a eu encore un procès verbal, un accord total de nos revendications. Et qui sont restés toujours vains, parce que le reste, le problème du poste de contrôle, les différents postes de contrôle, auxquels, comme s'il y a 10 points, il y a eu seulement un seul point qui a été pris en compte. Donc ce point-là, nous avons fait ça par rapport à la situation même de nos patrons, mais en réalité, nous n'avons pas grand-chose dedans.
Alors, vous venez d'écouter ces propos de M. Moussa Bagayogo, toujours du Sinacor, depuis 2015, sur les 10 revendications, il n'y a qu'un seul point qui a été pris en compte. Selon vous, qu'est-ce qui amène tout ce retard dans l'évolution de la situation?
Il y a la question du sérieux qui se pose, en fait. 2015, 2016, 2016, 2017, ça fait bientôt 2 ans, et les mêmes personnes sont en grève. Et sur les 10 revendications, il n'y a qu'un seul point qui se... Bien évidemment, lorsque nous sommes en négociation, vous en conviendrez avec moi que la responsabilité des deux côtés sont engagées. Lorsque je parle, ne vois pas à moi porte-parole des travailleurs syndicaux. Je veux juste dire que dans ce genre de négociation, c'est à l'État, la responsabilité en partie, vient à l'État de restaurer un bon climat de négociation, éviter les situations extrêmes. Parce que je l'ai dit dans mon introduction, quand est-ce qu'on part, nous partons en grève? Nous partons en grève lorsque les négociations n'ont pas abouti. Autrement dit, la grève, c'est l'étape finale d'une négociation donnée. Donc, c'est une situation que je présente comme étant une situation extrême. On se dit, alors, donc, au Mali, aujourd'hui, est-ce que s'ils ne sont pas dans l'extrême, on est écouté? On l'a vu avec la santé récemment, les médecins, il a fallu qu'ils aillent en grève illimitée, que des vies se sentent vraiment malades sérieusement, qu'on commence à négocier avec eux. Les magistrats, la même chose. L'éducation, la même chose. Et récemment, les professeurs du premier cycle et du second cycle sont partis en grève de 86 heures. Ça continue, en fait. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est un effet de mode au Mali? Pour se faire entendre, pour se faire écouter, il faut aller dans l'extrême. Ça, c'est la première chose à dire. La seconde chose, c'est que au regard de cette grille de lecture, on peut facilement se rendre compte qu'effectivement, il y a un problème du climat entre l'État d'une part et les travailleurs syndicaux d'autre part. Donc, à l'État encore une fois de restaurer ce bon climat-là. Tertio, si on se concentre rien que le transport, on sait qu'aujourd'hui le Mali est importateur d'un certain nombre de produits. Le carburant, et les machines, et les matériels de construction, et à une certaine mesure aussi les produits alimentaires. Donc, économiquement parlant, cette grève-là, sinon ces grèves incessantes-là, c'est une perte énorme dans le budget national. Pourquoi? Parce qu'à chaque checkpoint, à chaque poste, ces gros camions, ils payent quelque chose. Et c'est quelque chose qui doit partir directement, en temps normal, part directement dans le budget de l'État. Lorsqu'on sait que l'État table sur les budgets, cette année, on a vu qu'on a tapé jusqu'à 2002 et quelques milliards de francs CFA du budget. Et la recette était censée être au niveau de 800 milliards. Nous sommes déjà presque fin d'année, nous n'avons atteint que 590. Donc il y a un manque entre 800 et 590 de 300 et quelques à gagner encore. Donc, avec cette grève-là, ces gens ne seront pas en activité. S'ils ne sont pas en activité, ils ne paieront pas quelque chose au poste. S'ils ne paieront pas quelque chose au niveau des différents postes, il y aura la recette que l'État prélève va diminuer. Donc, les recettes et les dépenses, on verra que les dépenses vont excéder les recettes, ce qui va présenter ce qu'on appelle une situation de déficit budgétaire. Donc, c'est une situation qui engendre plusieurs autres maux à la fois. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ils partent en grève, ils reviennent, ils partent en grève, ils reviennent, ils partent en grève, ils reviennent. Quelque part, on s'est dit, est-ce que d'un côté ou de l'autre côté, les uns et les autres ont la volonté de s'écouter, de s'asseoir et de discuter sérieusement? Donc, c'est le sérieux là que moi je pointe dans cette histoire.
D'accord. Oui, M. Kébé, selon vous, qu'est-ce qui met en retard l'évolution de la situation depuis 2015?
Il y a M. Bagayogo qui l'a dit dans son intervention, la question du manque de volonté. Mais en toute sincérité, c'est la gestion politique du régime actuel qui fait partie des problèmes et non de la solution. Donc c'est pourquoi il a rappelé d'ailleurs tout à l'heure, hormis cette grève-là, il y avait des enseignants, il y avait les services de santé, il y avait d'autres, etc., etc. En réalité, le blocage, c'est à ce niveau-là aujourd'hui. Bon, il faut, pour trouver la solution, aujourd'hui, c'est le peuple qui doit se dresser de toute sa taille et pour mettre fin à cette gestion politique-là, afin que le peuple puisse dire « Alhamdoulilah » un jour.
Donc, si je comprends bien, c'est la question de gouvernance qui retarde l'évolution de la situation depuis 2015.
Absolument, parce qu'on a l'impression que c'est de l'amateurisme dans la gestion politique du pays aujourd'hui. Les gens, hormis la question de volonté, ils ne savent même pas que faire, comment faire. C'est pourquoi on est face à ce problème aujourd'hui.
Je suis presque dans la même ligne que le confrère. Moi, je crois que le problème, c'est que c'est pas qu'ils n'ont pas la volonté, mais ça leur dépasse en fait. Vous savez, on peut avoir la volonté face à une situation donnée. Par exemple, je peux avoir la volonté de soulever un baobab. Ça, c'est la volonté que j'ai. Je suis déterminé à soulever un baobab. Mais est-ce que j'ai la force de soulever le baobab en question? Vous voyez? Donc je me dis que quelque part, même s'ils ont la volonté, ils n'ont pas la sagacité d'esprit nécessaire pour lever ce défi-là. Le défi, quelque part, leur dépasse en fait. C'est-à-dire, ils sont... Vous savez, on a tendance à dire que lorsque le problème dure, ça devient une situation normale. Pour eux, dans leur façon de penser, dans leur schéma de pensée, cette situation-là, elle est quelque part non normale. C'est pourquoi je dis que je le reviens là. La solution là, ce n'est pas dans le système actuel. Quelque part, la solution, ils font partie du problème. Cette façon de gérer-là, ils font partie du problème. Mais implicitement, ils ignorent que c'est plutôt que c'est un problème, ils ignorent que c'était plutôt qu'une solution, ils ignorent que c'est un problème.
D'accord, oui, allez-y, M. Kébéou.
En réalité, c'est une question de manque de volonté. Au-delà de ça, c'est l'incapacité. Ce régime est caractérisé par l'incapacité de faire face aux défis auxquels il doit relever, en réalité. C'est manque de volonté parce qu'aujourd'hui, quand il s'agit de régler un peu la question du Nord, par exemple, ils ne font qu'arranger. Ils ont la volonté d'arranger ça. En arrangeant comment ? En donnant des centaines de millions à des bandits armés. Mais ils peuvent trouver des solutions à ça. Mais quand il s'agit de faire face aux problèmes fondamentaux du peuple, c'est là qu'on a un sérieux problème.
Mais...
Donc, alors que tout est là. Tout est là qui prouve à suffisance qu'en réalité, Ousseru Dana, comme le dit en Bambara.
Mais selon vous, qu'est-ce que le peuple fait face à cette situation-là?
Le peuple, c'est de continuer à s'organiser, comme le peuple a déjà commencé. Et bientôt, le résultat, c'est dans quelques mois seulement.
Quand vous dites le résultat, c'est dans quelques mois, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Le peuple prendra toute sa responsabilité et faire de ce pays un pays véritablement d'hommes et de femmes libres et dignes. Qui prendra en compte les aspirations profondes de son peuple à Bana.
Mais comment le peuple compte faire cela?
En s'organisant de façon démocratique et populaire.
D'accord.
Démocratique et populaire, je dis.
Oui, je comprends.
Je veux juste
oui.
rebondir un peu avant de continuer à répondre à votre question.
Oui.
Et lorsque j'ai dit que même s'ils ont la volonté, ils ne peuvent pas regarder. Pendant plus de 25 ans, 30 ans, nous sommes gouvernés par presque les mêmes têtes, en fait. Vous allez me dire que c'est pendant ces 30 ans, ces mêmes gens, à aucun moment donné, n'ont eu la volonté de faire évoluer ce pays-là. Je ne suis pas d'accord. Parfois, ils ont la volonté, mais on voit que ça ne va pas toujours. Donc, du coup, comme il l'a dit quelque part, c'est de l'incapacité, tout simplement. Lorsqu'on ne peut pas, on ne peut pas. C'est pas une question de... Tu as beau avoir la volonté face à une certaine situation, tu t'éclipses, tout simplement. Pour répondre...
Je vous en prie, oui. Mais selon vous, ce que M. Kébé vient de dire, que le peuple pourra faire face à cette
justement, la question de l'organisation est d'une importance très capitale. Il faut que le peuple... comme ils ont déjà commencé à le faire, comme on a déjà commencé à le faire, nous sommes tous le peuple, il faut qu'on s'organise de façon sérieuse. Il faut faire peser ces questions dans les urnes. Il ne s'agit pas de sortir de manifester seulement, même si c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut, en quelque sorte, sinon il convient, dans les différentes élections locales, régionales, législatives ou présidentielles, faire peser des questions de ce calibre-là. Quel candidat nous allions voter, par exemple, à l'élection présidentielle, qui sera à la mesure des circonstances, qui sera à la mesure de la question non seulement du Nord, la question sécuritaire, la question de l'emploi, la question de la santé, la question des grèves des syndicaux. Et c'est sur la base d'un ensemble de programmes bien rédigés, très bien expliqués au peuple, qu'on puisse comprendre où va ce monsieur lorsque, où ira plutôt ce monsieur lorsqu'il sera au pouvoir. Et donc, peser sérieusement, ces questions sociales-là dans les urnes.
D'accord. Oui, allez-y, M. Kébé, vous voulez réagir par rapport à ces propos, oui.
Oui, c'est vrai, d'une part, quand il dit qu'ils ont la volonté, mais ils ont la volonté pour la question de surfacturation, ils ont la volonté pour soumettre davantage le pays aux bailleurs de fonds, ils ont la volonté pour... ne pas avoir une vision très claire par rapport à la gestion saine de notre pays, c'est-à-dire la bonne gouvernance. Ils ont la volonté vraiment de nous trimballer dans la boue. Ils ont la volonté de nous retarder dans notre développement socio-politique, économique et culturel.
C'est ce qu'ils peuvent faire.
C'est ça, c'est leur volonté. Parce que tu ne peux pas avoir la gestion, mais ils n'ont pas la volonté depuis 2015 de trouver une solution idoine au problème des gros porteurs. Vous avez parlé de certaines conséquences, mais les produits qui viennent, c'est-à-dire les pommes de terre, les oignons qui viennent de l'extérieur,
les oranges, les pommes,
etc. Mais à la frontière, sont tous garés là-bas. Deux ou trois jours après, c'est des gâchis pour les commerçants. Il y a tout ça comme conséquence. Avec la pénurie de carburant aussi, à un moment donné, c'est tout ça, ça fait partie des conséquences. Donc, ils n'ont pas la volonté, en réalité, de trouver une solution à ça, mais ils ont la volonté de vraiment continuer à nous trimballer.
Question simple.
À nous trimballer comme...
Question simple. Lorsqu'on a la volonté et qu'on n'applique pas, est-ce qu'on a la volonté?
Monsieur Kébé.
Tu as la volonté de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Est-ce que tu as la volonté vraiment?
Moi, je dis qu'ils n'ont pas la volonté.
Voilà.
Mais je dis qu'ils n'ont pas la volonté de trouver des solutions idoines au problème.
Voilà, maintenant,
mais ils ont la volonté vraiment pour la corruption, pour la délinquance financière, pour leur incapacité de mettre fin à l'escalade de la violence, par exemple. Ils ont cette volonté-là.
Oui,
mais pour bien faire, ils n'ont pas cette volonté.
En fait, tu sais,
qui veut peu.
Oui, justement.
Qui veut peu.
Voilà, justement. Voilà. C'est, ils ont beau le vouloir, quelque part, s'ils ne le font pas. Ça revient au même manque de volonté et incapacité. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le qualifier. Moi, quand même, je me situe beaucoup plus au niveau de leur incapacité à faire évoluer tout simplement le pays. Là. Parce qu'il y a, même si on a...
Ben, ce qui est sûr, ce qui est clair aujourd'hui...
Oui, c'est ce que je disais. En fait, aujourd'hui, moi, je me place au niveau... Ils ont manque de volonté, ils ont la volonté. Moi, je crois qu'ils sont incapables, tout simplement, à faire évoluer ce... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pour faire évoluer presque tout. On a presque tout chez nous ici pour nous faire sortir de ce bourbier-là. Hein? Mais malgré tout ça, on ne peut pas, en fait. Moi, je me dis que, quelque part, est-ce que ce n'est plutôt pas de l'incapacité? J'ai la volonté, par exemple, de vouloir, comme je l'ai dit, l'exemple de Baobab, de faire soulever un gros arbre. Mais est-ce que réellement, malgré ma volonté, est-ce que la force y est pour le faire?
Mais vous venez de dire... Oui, excusez-moi.
En partie, il n'a pas
tort. Oui, en partie, je n'ai pas tort. Mais il faut voir, par exemple, madame, par rapport à la grève des médecins, 38 jours, et s'ils avaient la bonne volonté, ils auraient au moins réglé cette affaire-là. Mais vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'ils n'avaient pas la volonté, ou ils étaient incapables de régler.
Moi, je crois que c'est de l'incapacité.
Ils n'avaient pas du tout la volonté. C'était aussi clair que ça.
Peut-être c'est le même débat, peut-être. Peut-être qu'on a un problème de...
Mais le fond, c'est que le fond, c'est que c'est un régime vraiment qui ne répond pas aux aspirations du peuple. Ça, c'est clair.
Incapable de...
Et le peuple prendra sa responsabilité par rapport à ça de façon démocratique et populaire. Quand on parle d'urne, on parle de démocratie.
Absolument.
Et on est dans cette logique-là.
Mais M. Kibé, les défis sont énormes. Mais est-ce que vous pensez que ces grèves-là ne vont pas en rajouter ou ce serait peut-être une solution?
Ceux qui ont déclenché la grève, c'est leur droit. Ils ont droit à la santé, ils ont droit à une vie meilleure, c'est leur droit, ils ont droit à un salaire décent. Mais l'État, par exemple, que ce soit le président, les députés, les ministres, etc., sont à la charge de ces gens-là qui ne font que contribuer aux différents postes, qui ne font que contribuer un peu partout dans le pays. Donc ils ont aussi droit à une meilleure vie parce qu'ils ont aussi leur famille, etc. Mais ils ont aussi des devoirs à faire, hein, il faut qu'on soit clair. Ils doivent faire correctement aussi leurs devoirs.
Nous vous rappelons que nous avons invité les transporteurs à participer à ce débat, mais malheureusement, on n'a pas pu les avoir sur ce plateau. Alors, M. Dembélé, vous avez mentionné un facteur. Vous avez dit que les gros porteurs, ils transportent des marchandises venant dans le pays et allant ailleurs. Mais la dernière fois, au mois de mai, quand ils ont fait la grève... là où il a abouti les accords du 27 mai. Donc, il y a eu des pénuries de carburant, il y a eu beaucoup de choses. Le litre même était vendu jusqu'à 2000 francs.
Absolument.
Donc, selon vous, cette fois-ci, quelles sont les conséquences que cette grève peut avoir sur les Maliens?
Dès qu'il y a augmentation de prix, comme vous venez de dire la fois passée, lorsque avec la grève de mai 2017, lorsqu'il y avait eu cette grève-là, il y a eu l'augmentation des prix des essences, pour ne prendre que cet exemple-là. Lorsqu'il y a augmentation de prix, en termes économiques, on dit il y a inflation. Lorsqu'il y a augmentation de prix, qui sent le premier? C'est le consommateur du produit en question qui sent qu'il y a un problème, parce que c'est nous qui payons l'essence. Donc, lorsqu'il y a augmentation de prix, nous, on va sentir que nos pouvoirs d'achat, nos capacités d'acheter les biens et services vont commencer à diminuer. Donc, le même effet peut se faire sentir maintenant, aujourd'hui. Et lorsque, comme on a dit, on maintient ces gros porteurs-là au niveau de la douane, parce qu'ils sont en grève, ils ne vont pas continuer à circuler au niveau des différents postes. Donc, ils ne vont pas payer ce qu'on appelle la petite somme là qu'ils doivent à l'État malien, dans les différents postes. Lorsqu'ils ne payent pas ça, c'est, imaginez, tous ces camions, ces gros porteurs au Mali, ça fait des milliers et des milliers de remorques, des milliers de camions qui payent les petites sommes qui rassemblées font des milliards de francs, c'est pas dans le budget national. Donc c'est une perte énorme, encore une fois, comme je le disais tantôt, dans la question du budget de l'État. Autrement dit, l'État va encore perdre davantage avec cette grève-là, parce que c'est des gens qui ne seront pas en activité. S'ils ne sont pas en activité au niveau des différents postes, ils ne vont pas pouvoir régler le poste. Donc, faire rentrer quelque chose dans le budget national. Donc, et cette pénurie d'ailleurs, lorsqu'il y a pénurie de ces produits-là, en économie, il y a... Pourquoi l'augmentation de ces prix-là? En économie, il y a un principe qui dit, c'est le principe de l'offre et de la demande. Lorsque la demande dépasse l'offre, autrement dit, lorsqu'on demande plus qu'on en dispose, les prix augmentent. C'est le cas des essences la fois passée. Donc le même effet, sans pour autant me répéter, c'est juste pour qu'on puisse comprendre, le même effet vont pouvoir se faire sentir. L'augmentation de prix va crisper encore une fois la colère du peuple, parce que dès que le prix augmente, c'est nous qui sentons. Donc il y a un risque de manifestation extrême à craindre avec cette grève-là.
D'accord. Oui. Alors, M. Kébé, selon vous, quel peut être l'impact de cette grève sur le citoyen lambda?
Ça ne serait pas comme la dernière grève, parce que selon nos informations, il y a une partie des syndicats qui n'est pas du tout d'accord avec cette grève-là. Donc ça aussi c'est une nouvelle, mais comme il a évoqué, c'est exactement ça, ça peut même aller au-delà de tout ça. Et cette fois-ci avec la grande sociale aussi, ça peut déclencher d'autres...
Mais vous avez dit qu'il y a un syndicat qui s'est retiré.
Oui.
Quelles sont les raisons de ce retrait-là?
Parce que pour eux, ils disent d'approfondir encore des négociations, qu'ils sont toujours dans le cadre de ces négociations-là, et qu'il faudra attendre, en fait. Donc voilà un peu en gros ce qu'on pourra dire, mais par rapport aux conséquences, comme il a dit, il y a effectivement ça. Mais le plus... si tu regardes sur d'autres angles, même si l'argent qui rentre, par exemple au niveau des frontières, etc., mais le cerveau derrière de la douane, là, c'est la France qui gère, ça aussi c'est un problème. Et l'argent qu'on perçoit, c'est-à-dire l'argent que l'État perçoit dans le cadre de tout ça, on ne voit pas exactement la destination de ces fonds-là en réalité, si ce n'est pas la question de dilapidation, etc. Et c'est les différents rapports
du directeur général. Mais quand vous dites que c'est la France qui gère, comment
le cerveau de notre douane, c'est la France. Ça, c'est connu de tous.
Comment ça?
C'est la France qui contrôle ça.
Qu'est-ce qui prouve que c'est la France qui...
C'est une information qui n'est pas, comme le dit, sous la table, madame.
D'accord.
exemple palpable. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que M. Kévé a dit.
Okay.
Exemple palpable. Lorsque le vérificateur général fait sortir son rapport parmi les 70 et quelques milliards de francs CFA qui ont été volés sur les 3 années, et d'ailleurs il n'a inspecté que 5 services publics, ouais. Lorsqu'il pointe la responsabilité de la douane à hauteur de 22 et quelques milliards de francs CFA, vous allez me dire que c'est l'État français qui a volé ça et non la douane malienne.
Mais je n'ai pas dit que c'est l'État français qui a voulu.
Je vais vous dire. Je vais terminer tout de suite. Est-ce que la France, la politique française ou bien les facteurs exogènes influencent les politiques nationales? Oui. Ce n'est pas la France seulement. Les institutions financières, ils nous disent quoi faire avec nos différentes politiques nationales. Ça, c'est une chose à part. Mais est-ce que nous aussi, on a une responsabilité qui doit être distinguée? Oui. Je dis qu'aujourd'hui, au Mali, est-ce que la France nous vole? C'est possible, même si je ne dispose pas de preuves concrètes pour dire voilà quelle somme la France nous a volée. Mais quelque part, je me dis aussi que, effectivement, à côté de cette situation-là, nous aussi, on s'épie nous-mêmes. Quelque part. C'est ma conclusion, tout simplement. Ce que vous dites n'est pas faux en partie, mais la France n'est pas responsable de tous nos maux.
Ce que vous ne comprenez pas, je n'ai pas dit qu'elle est responsable à part entière. Hein. Nous avons notre part de responsabilité. Ça,
j'ai pris mon exemple sur la douane parce que j'avais parlé.
Je viens. C'est vrai par rapport au rapport du vérificateur général, mais si je dis que le cerveau c'est contrôlé par la France, c'est la France qui gère ça en toute sincérité. Si vous ne voyez pas en tant qu'économiste aujourd'hui et comment la France nous pille, etc., ça c'est encore beaucoup
non,
plus
je
grave.
Dis c'est une chose à part.
Oui, attends, en tant qu'économiste, vous n'êtes pas sans savoir que même avec le franc CFA, comment ça évolue, ça marche.
Mon cher monsieur,
mais s'il vous plaît, patience au moins de m'écouter, comme je le fais d'ailleurs.
Malheureusement, le temps nous fait défaut, alors je veux vous demander, selon vous, quelle peut être la solution à cette situation?
Avant ça, est-ce que je peux y restaurer quelques vérités? Juste une minute.
Ok, une minute.
Voilà. Ne me faites pas dire quelque chose que...
Une minute.
Ne me faites pas dire quelque chose que je n'ai pas dit. Est-ce que la France nous pille? Je n'ai pas dit que c'est faux. J'ai dit que prenez la peine de distinguer entre un fait et un autre fait. La France nous pille, c'est une chose à part. Est-ce que nous aussi, on se pille? Oui. Aujourd'hui, on a une grande part de responsabilité. Pour commencer à nettoyer sa cour, cher monsieur, il faut d'abord nettoyer sa chambre. On commence par sa chambre. Vous voulez que la France fasse quoi si nous-mêmes on n'accorde pas de l'importance dans la gestion de nos propres ressources? Si nous-mêmes on se pille, si la France nous pille, moi je crois que la France doit continuer à nous piller en fait. Si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de faire le sérieux avec notre ressource et que d'autres viennent nous piller encore, avant de commencer à nettoyer ceux qui sont ici,
Monsieur Dambélé, on va pas continuer malheureusement avec le temps nous fait défaut, M. Kébé, pour répondre
si
à cette question.
Je n'ai pas dit que la France ne nous pille pas.
Oui. On peut continuer à défendre cette thèse que la France continue à nous piller, et nous, depuis hier et aujourd'hui, nous allons toujours continuer à combattre cette politique, c'est-à-dire cette relation.
Je vous soutiens dans ce combat.
S'il vous plaît, il faut ayez la patience au moins. Nous allons continuer à combattre cette relation nocive franco-africaine, greffée de trahison domestique, et puis nous allons remporter la victoire tôt ou tard. Mais wait and see.
Ok, parlons à présent de la solution, monsieur. Dambélé, oui.
La solution, elle est démocratique, bien évidemment. Il faut aller au dialogue, il faut restaurer et un bon climat de négociation. Et c'est là, ça ne peut que se faire, comme je l'ai dit, par la responsabilité engagée de l'État. C'est à l'État que la responsabilité revient d'instaurer dans tous les secteurs de l'emploi au Mali, pas les transporteurs seulement, mais dans tous les secteurs de l'emploi au Mali, la responsabilité revient à l'État de bien vouloir restaurer un bon climat de négociation. Ça, c'est un. De deux, il s'agit également d'une bonne politique d'emploi qui prévient ce genre de comportement. Dès qu'on sent qu'il y a des crispations qui sont en train de s'installer, qu'on puisse prévoir ça de loin, et entamer des actions pour qu'on puisse éviter d'arriver à des situations extrêmes comme ça, parce que ce sont des pertes énormes dans nos budgets et ça nous met beaucoup en retard. Donc pour moi, la solution passe par la négociation.
Je crois que l'État doit s'impliquer davantage, les employeurs aussi, les transporteurs, ils doivent tous s'impliquer davantage pour trouver rapidement une solution. Pour finir, je demanderai à M. Dambélé de revenir sur terre. Et je vous remercie.
D'accord. Cela me fait...
Je veux juste conclure, quand même, il a eu droit.
Allez-y.
Mon cher Kébé, je n'étais pas en contradiction avec vous. L'intérêt d'une discussion, c'est de pouvoir se comprendre. Je vous ai compris dans votre lutte. Je pense que c'est vous qui ne m'avez pas compris. Désolé si vous ne vous pas donné le temps de me comprendre. Est-ce que je voyage dans le ciel? En tout cas, je suis devant vous ici aujourd'hui. Nous sommes tous sur la même terre.
D'accord. Merci, M. Dambélé. Et cela met fin à ce débat sur la grève des gros porteurs. Un grand merci à nos invités. Ibrahima Kébé de Fasso Kanou, Khalid Dambélé, économiste au CRAPESA. C'était une présentation de Fatmata Togola à la mise en onde de Sedumbo. La régie vidéo est assurée par Petting Diarra. C'est une réalisation de Moumen Sendebou et une coordination de Mohamed Touré.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halou Demandi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.